abonner sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube. Bonjour à tous, Yacouba Ouidraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire en cette matinée du mercredi 12 février, au moins 51 personnes tuées par des hommes armés affiliés à la milice Codeco dans le nord-est de la RDC. Nouvel épisode des démêlés judiciaires de la famille de l'ex-président Edgar Lungu en Zambie avec l'arrestation de sa fille inculpée pour blanchiment d'argent. Le roi Abdallah II de Jordanie dit être prêt à recevoir 2000 enfants gravement malades de Gaza, annonce faite lors de sa visite hier ici à Washington DC. L'Égypte, elle, veut présenter une vision globale pour la reconstruction de la bande de Gaza avec le maintien des Palestiniens sur leur terre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour un échange de territoire avec la Russie dans le cadre d'éventuelles négociations de paix sous l'égide des États-Unis. Nous ferons une escale à Libreville au Gabon pour découvrir des mets qui font recette. Parmi eux, le très célèbre Tchépoudienne, le plan national du Sénégal.
Par rapport à ce plan, on peut se projeter déjà et avoir une vision de déjà ce qu'ils mangent là-bas, comme on dit la naturelle horreur du vide. Il faut bien qu'on puisse manger.
Reportage à suivre dans la partie magazine de cette édition. En sport, nous ferons un tour d'horizon des matchs de barrage de la Ligue des champions en Europe. Ce sera dans une dizaine de minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Au moins 51 personnes ont été tuées par des hommes armés affiliés à la milice Codeco dans le nord-est de la RDC, région où les violences communautaires sont récurrentes. Le point avec Alexandrine Rolognon.
C'est encore un bilan provisoire car la fouille se poursuit, a déclaré le président de la société civile du territoire de Djougou, Jules Touba. D'après ces informations, il y a 43 cases incendiées et d'autres victimes ont été brûlées dans leurs cases. Il y a également une dizaine de blessés. Selon des sources humanitaires qui confirment le bilan, les tueries de lundi auraient été commises en réaction à une attaque de la milice Zaïre qui affirme défendre la communauté Emma dans une localité située dans la même zone samedi. Dans un message diffusé à la presse mardi, le porte-parole de l'armée congolaise pour la province affirme que les forces armées de la République démocratique du Congo, avec leurs partenaires, sont intervenues et cette intervention a limité les dégâts. La province de l'Ituri est déchirée depuis 2017 par un conflit entre milices communautaires, dont la Codeco et le groupe Zaïre, qui a provoqué la mort de milliers de civils et des déplacements massifs de population.
Les autorités zambiennes ont annoncé avoir arrêté et inculpé mardi la fille de l'ancien président Edgar Lungu pour blanchiment d'argent, un nouvel épisode des démêlés judiciaires de cette famille. Les précisions avec Dili Diko.
Tassila Lungu, députée de la circonscription de Chawama dans la capitale Lusaka, a été arrêtée à son retour d'un voyage aux États-Unis, selon la commission de lutte contre la drogue, DEC. Elle est accusée de possession de biens soupçonnés d'être des produits du crime et de blanchiment d'argent, a déclaré le porte-parole de la DEC, Alan Tamba. La DEC a mentionné une ferme évaluée à 8,8 millions de kwacha, environ 316 000 $ que Tassila Lungu, 41 ans, a possédé dans l'est de la Zambie de janvier 2015 à décembre 2022. La fille d'Edgar Lungu, qui a dirigé la Zambie entre 2015 et 2021, a déjà été arrêtée en mai 2024 avec sa mère et sa sœur pour fraude. La famille avait dénoncé à l'époque une vendetta politique. Son frère Dalitso est également accusé de corruption. En 2023, la police a perquisitionné la maison familiale à accusant l'ancienne première dame d'avoir volé des véhicules. Edgar Lungu a quitté en 2021 la présidence de la Zambie après la victoire écrasante aux élections du vétéran de l'opposition Hakainde Hichilema. Il a annoncé qu'il prévoit de se présenter à nouveau à la présidence lors des élections prévues l'an prochain.
Au Nigeria, 3 soldats ont été tués et 4 autres blessés hier lors d'un raid de Boko Haram sur une base militaire dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Cameroun. C'est ce qu'ont déclaré 2 officiers qui ont précisé qu'à l'aube, les assaillants ont pris d'assaut la base militaire du village de Bita, situé dans l'état du Borno, et ont ouvert le feu sur les soldats. Les djihadistes ont emporté 2 véhicules militaires blindés, des armes, après avoir mis le feu à 2 véhicules, dont un camion résistant aux mines, ont ajouté les 2 sources. Fin janvier, au moins 27 soldats nigériens ont été tués dans le nord-est du pays, dans un attentat suicide djihadiste dans le triangle de Tombouctou, une zone à cheval entre les états de Borno et de Yobe.
Au Mali, les autorités ont instauré de nouvelles taxes sur les boissons alcoolisées. Les entreprises de télécommunications, les services commerciaux de communication téléphonique et certains transferts d'argent sur mobile. Selon le gouvernement, ces taxes devraient permettre à l'État de récupérer près de 200 milliards de francs CFA chaque année. Ces nouvelles recettes doivent surtout servir à financer des projets d'infrastructures de base et de développement social, affirme le gouvernement qui ajoute qu'une partie sera investie dans le secteur énergétique pour réduire les coupures d'électricité intempestives. Le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, a justifié cette hausse de taxes par les difficultés de son pays à obtenir des prêts auprès de certaines banques, mais aussi par la volonté du pouvoir d'asseoir une véritable souveraineté.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le roi Abdallah II de Jordanie a dit hier mardi être prêt à recevoir 2000 enfants gravement malades de Gaza. C'était lors de sa rencontre à Washington avec Donald Trump, qui voudrait que le royaume hachémite avec l'Égypte accueille l'essentiel des habitants du territoire palestinien. Le point avec Eric Manirakiza.
La rencontre s'est tenue au moment où la trêve à Gaza est fragilisée. C'est un beau geste à approuver le président américain assis aux côtés de son invité du prince héritier Hussein dans le bureau ovale. Donald Trump a réitéré qu'il veut reconstruire Gaza dévasté par la guerre pour transformer ce territoire en Côte d'Azur du Moyen-Orient après avoir déplacé définitivement les Palestiniens. Le président américain a exhorté en particulier la Jordanie et l'Égypte à accueillir les plus de 2 millions de Gazaouis qui seraient déplacés. Le souverain jordanien a fait savoir que l'Égypte élaborait un plan de coopération avec Donald Trump et que ce projet ferait l'objet de discussions en Arabie Saoudite. Attendons que les Égyptiens puissent présenter ce plan au président américain, a-t-il déclaré. La Jordanie est un allié clé des États-Unis au Moyen-Orient, mais Abdallah II a rejeté la semaine dernière toute tentative de prise de contrôle des territoires palestiniens ou de déplacement de leurs habitants. Le Caire a lui aussi écarté tout compromis qui porterait atteinte aux droits des Palestiniens. Par ailleurs, les pays arabes ont fermement rejeté la proposition, insistant sur une solution à deux États avec un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël.
L'Égypte, elle, entend présenter une vision globale pour la reconstruction de la bande de Gaza qui garantira le maintien des Palestiniens sur leurs terres, annonce faite par son ministère des Affaires étrangères. Elle espère coopérer avec l'administration du président Donald Trump dans le but de parvenir à un règlement équitable de la cause palestinienne. Le président américain a déclaré qu'il pourrait suspendre son aide à l'Égypte et à la Jordanie si elle refusait de travailler sur son projet de prise de contrôle de la bande de Gaza et de déplacement de sa population vers ces pays. Le gouvernement canadien a annoncé la nomination de Kevin Brosseau au poste de star du fentanyl pour accélérer ses efforts déployés pour repérer, perturber et démanteler le commerce du fentanyl en partenariat avec les États-Unis. Déclaration faite dans un communiqué par le premier ministre canadien Justin Trudeau. Le président Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane sur toutes les importations en provenance du Canada si Ottawa ne renforçait pas sa lutte contre l'immigration clandestine et le développement du trafic de fentanyl. Le Canada a promis un plan d'environ 878 millions d'euros avec le déploiement de nouveaux hélicoptères, de nouvelles technologies et plus de personnel le long de la ligne de démarcation longue de près de 9000 km entre les deux pays. Selon les chiffres officiels, des services frontaliers américains, moins de 1% du fentanyl saisi aux États-Unis l'année dernière provient du Canada. Le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth a déclaré mardi que c'était à l'Europe d'investir le plus dans sa propre défense lors de son premier voyage dans la région depuis sa prise de fonction. Les détails avec Jean-Roger Billon.
Le continent européen mérite d'être à l'abri de toute agression, mais ce sont les pays voisins qui devraient investir le plus dans cette défense individuelle et collective, a déclaré le chef du Pentagone après une visite aux troupes américaines à Stuttgart, en Allemagne. Le président américain Donald Trump veut que les pays de l'OTAN accroissent leurs dépenses de défense, évoquant l'objectif de 5% du produit intérieur brut, jugé irréaliste par les États européens. La part consacrée par les États-Unis eux-mêmes aux dépenses de défense tourne autour de 3%. Pete Hegseth visite cette semaine deux commandements militaires américains en Allemagne et doit assister à une réunion de ses homologues de l'OTAN mercredi à Bruxelles, ainsi qu'à une réunion du groupe de contact des soutiens militaires de l'Ukraine. Il se rendra aussi en Pologne, qui prévoit d'allouer 4,7% de son produit intérieur brut à la défense en 2025. Hegseth a réaffirmé la volonté de Donald Trump de conclure un accord de paix rapide en Ukraine.
L'Organisation mondiale de la santé va devoir se serrer la ceinture après le retrait des États-Unis, de loin le premier contributeur à son budget, a souligné son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le président américain Donald Trump a signé peu après son investiture le mois dernier un décret en vue de retirer son pays de l'OMS qu'il avait par le passé critiqué pour sa gestion de la pandémie de COVID-19. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le Nigeria cherche à collaborer avec l'Inde pour accélérer ses plans de transition énergétique, a déclaré mardi Agbu Kefas, le gouverneur de l'État de Taraba, en marge de la Semaine de l'énergie de l'Inde. Le réseau électrique nigérien souffre souvent de pannes fréquentes dues au vieillissement des infrastructures, au sous-investissement et au vandalisme, ce qui entraîne de fréquentes coupures d'électricité. Au Kenya, le gouvernement a approuvé un budget de 32,65 milliards de dollars pour l'année fiscale 2025-2026. Ce budget doit encore être validé par le Parlement. Le président William Ruto a dû renoncer à des hausses d'impôts en juin après des manifestations. Le gouvernement prévoit une croissance économique de 5,3% en 2025 et 2026 après une estimation de 4,6% en 2024.
À présent, les nouvelles sportives avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yacouba.
La Ligue des champions européenne, pour commencer, le Real Madrid s'impose 3-2 à Manchester City au terme d'un barrage aller renversant.
Et oui Yacouba, c'était le grand choc de la soirée. Le Real Madrid, tenant du titre, a renversé Manchester City 3-2. Dans une spectaculaire fin de match, hier mardi, un barrage aller de Ligue des champions. Un dénouement passionnant avant le match retour la semaine prochaine en Espagne. Manchester City, le champion d'Europe 2023, n'est décidément pas entièrement remis de son automne catastrophique, ni de ses errements défensifs à répétition. Le club aux 15 titres européens est décidément le roi des scénarios renversants, passionnants et inattendus. Les merengues ont ressorti la boîte à magie dans les dernières minutes d'une affiche aux allures de combat de boxe. Grâce à Brahim Diaz et Jude Bellingham, buteurs avant le gong, qui ont placé les Madrilènes en ballottage favorable avant le match retour. Les deux équipes lauréates des deux dernières éditions et qui s'affrontent pour la quatrième saison de suite en Champions League se retrouveront à Madrid mercredi prochain.
La Juve de son côté bat le PSV 2-1 et prend une petite option sur les huitièmes.
La Juventus Turin est en ballottage légèrement favorable pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après avoir arraché une précieuse mais courte victoire 2-1 hier mardi à domicile contre le PSV Eindhoven en barrage aller. Le match n'a jamais été à sens unique et les Bianconeri ont souffert pour finalement s'imposer en fin de partie, mais leur victoire n'est pas volée. Le match retour à Eindhoven est programmé mercredi prochain et le vainqueur de la double confrontation affrontera soit Arsenal, soit l'Inter Milan en huitième.
Dortmund, large vainqueur du Sporting à Lisbonne, est tout près des huitièmes.
Le Borussia Dortmund a battu le Sporting Portugal à Lisbonne 3-0. Avec cette victoire, Dortmund, finaliste de la précédente édition de la Ligue des Champions, fait un grand pas vers les huitièmes de finale. Après un début de match où le Sporting a semblé dominer face à une équipe germanique qui a du mal à prendre le contrôle, les Lions lisboètes ont su se créer plusieurs occasions dangereuses. Le Sporting, champion du Portugal en titre, qui a connu une période difficile cette saison après le départ de son entraîneur Ruben Amorim à Manchester United, a semblé baisser les bras dans les dernières minutes devant un public dont une partie avait déjà commencé à quitter les tribunes.
Et le Paris Saint-Germain, quasiment huitième de finale après sa victoire écrasante 3-0 à Brest, en barrage aller.
Le Paris Saint-Germain a quasiment assuré sa place en huitième de finale de Ligue des Champions en dominant largement Brest 3-0. Paris est bien parti pour rejoindre l'OM Auxerre et Lyon qui avaient éliminé respectivement Monaco, Lille et Bordeaux par le passé.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Alors que des milliers de familles ont fui Darfour Nord après une attaque des paramilitaires, l'armée soudanaise a annoncé samedi avoir pris un secteur stratégique de la capitale aux forces de soutien rapide, FSR. Dans la foulée, le général Abdel Fattah al-Burhan a prévu la formation prochaine d'un gouvernement de transition. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris Roland Marshall, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
En fait, c'est une offensive qui a commencé fin novembre, début décembre. Ce qu'on voit, c'est que effectivement l'armée est à l'offensive, et quand on dit l'armée soudanaise, il faut tout de suite rectifier en disant l'armée et des milices qui lui sont alliées, qui ont été organisées grâce aux islamistes, grâce à des leaders tribaux qui sont très hostiles aux Darfouriens ou spécifiquement aux forces de Hemeti, et également grâce à l'Érythrée. Donc ces milices fournissent les troupes de choc et l'infanterie qui manquait jusqu'à présent à l'armée soudanaise. Et donc, on a eu des victoires. On en a eu d'abord en province, dans des villes de l'Est, comme la reprise de Wad Medani, de Sinja, dans l'État du Sénat. Et ce qu'on voit, c'est effectivement que dans les dernières semaines et jusqu'à aujourd'hui, cette offensive a marqué des points importants à Khartoum, notamment à Khartoum Nord, hein, puisqu'il y a juste encore une petite enclave qui est prise. Des zones symboliques comme l'état-major des armées a été au centre de Khartoum a été libéré, puisqu'il y avait un siège depuis pratiquement le début de la guerre. Et on peut penser que dans les jours qui viennent, la capitale, hein, c'est-à-dire les trois villes, Omdurman, Khartoum et Khartoum Nord, n'auront plus de troupes de Hemeti et seront sous le contrôle total de l'armée. Donc c'est une victoire pour le général Burhan, même si il faut poser la question des milices armées qui lui sont alliées aujourd'hui, mais qui défendent des options politiques qui ne sont peut-être pas les siennes.
Alors, le général Burhan a annoncé la formation prochaine d'un gouvernement de transition. C'était samedi après la prise d'un secteur clé de la capitale située à Khartoum Nord. Est-ce que c'est un gouvernement qui pourra faire face aux multiples crises que connaît ce pays et surtout trouver une solution aux problèmes de fond?
Écoutez, je crois que pour l'instant, les déclarations de général Burhan sont assez agressives, c'est-à-dire qu'on va vers la formation d'un gouvernement. Ce gouvernement gouvernera sous l'autorité absolue de général Burhan, puisque dans ce qui est prévu, il aura beaucoup plus qu'avant une autorité décisive sur le gouvernement. Et puis également, il ne faut pas oublier que la guerre continue, c'est-à-dire que dans l'ouest du Soudan, une partie de la province du Kordofan et surtout au Darfour, les combats vont continuer et on peut penser que même ils vont s'approfondir compte tenu du départ de Khartoum de très nombreuses troupes du général Hemeti. Donc je crois que le dispositif du général Burhan, c'est d'avoir une autorité civile présentable plus que les militaires pour exiger une aide massive de la communauté internationale et apparaître comme le seul véritable acteur politique légitime dans le pays. Alors évidemment, certainement les sanctions américaines qui ont souligné les massacres de masse commises par les forces de soutien rapide lui offrent une voie choisie pour cela, mais en même temps il faut se rendre compte que le général Hemeti peut rebondir politiquement et militairement, puisque lui-même également envisage de créer dans les prochains jours ou les prochaines semaines un gouvernement civil qui gouvernerait les zones que lui contrôle essentiellement dans l'Ouest.
Cela signifie l'émiettement du Soudan?
Cela signifie, disons, si on s'en tient à ce scénario, à une partition de fait du Soudan, mais pas du tout l'indépendance du Darfour. Hein. C'est une situation politique qui peut durer, ou au contraire, qui peut être résolue, soit militairement, soit par la négociation. Ce qui est sûr, c'est que pour aller à la négociation, les partisans de l'amitié voudront avoir le contrôle absolu du Darfour, ce qui veut dire prendre la ville d'El Fasher, qui est une ville qui a été défendue avec rage et beaucoup de succès jusqu'à présent par des contingents de l'armée, mais surtout les mouvements darfouriens, Zagawa, qui ont bénéficié d'un appui de Khartoum, enfin du général Burhan, et qui en même temps ont également bénéficié d'apports en hommes et en matériel venant du Tchad, même indépendamment de la volonté du président tchadien.
Roland Marshall, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Notre reportage qui va suivre pourrait bien s'intituler « Le cahier des plaisirs ». Grâce à lui, on va plonger dans la culture culinaire de l'Afrique subsaharienne, dont la batterie de saveurs est aussi dynamique que variée. Escale à Libreville au Gabon pour découvrir les mets qui font recette. Parmi les plus accessibles aux consommateurs locaux, le très célèbre tchéboudienne, le plat national du Sénégal. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzi.
Sur place ou emporté avec ou sans sauce, tout est possible. La seule constante, les doses généreuses. Mais chez la très discrète Fatima, on n'y vient pas tout à fait par hasard. Le restaurant est excentré, n'affiche pas où ses couleurs. Pour savourer le tchéboudienne comme à Dakar, le bouche à oreille suffit.
Même si on n'y est pas encore parti, mais par rapport à ce plan, on peut se projeter déjà et avoir une vision de déjà ce qu'ils mangent là-bas. Comme on dit, la naturelle horreur du vide. Il faut bien qu'on puisse manger. Du coup, il y a plus de vendeurs ouest-africains.
À quelques heures de là, la salle ne désemplit pas. Les abonnés de Nelly se bousculent à la porte. C'est le cas de Nelly qui travaille tout juste en face de saut d'eau tournée.
À la pause, je profite d'acheter un tiers poisson. Ici, en ville, déjà au centre-ville, les places sont à partir de 3 500 en montant, or que le tchèp, il a 1 500, c'est abordable.
Parmi cette clientèle qui afflue de partout, certains arrivent ici, le ventre vide, et en profitent jusqu'à la dernière bouchée.
Très bon. C'est peut-être la meilleure spécialité sénégalaise. Tout le monde a ses richesses. Déjà, le Gabon est un pays très varié au niveau culinaire. Donc, ça ne fait pas un peu de mal d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. L'intégration africaine peut aussi passer par la gastronomie.
Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis fin 2021, le tchéboudienne parfume les tables gabonaises. Cette spécialité sénégalaise est autant appréciée des migrants du Nord que le poulet yassa de Côte d'Ivoire, le mafé ou encore le très célèbre coquille du Cameroun. C'est le menu du jour chez Rita, une restauratrice du marché Mombwe.
C'est un mets traditionnel, c'est dans tous les ethnies au Cameroun. Et oui, ça ne manque pas pendant le mariage. S'il y a le coquille, s'il n'y a pas le coquille pendant ton mariage, que le mariage n'a pas donné.
Agrémenté d'huile de palme et farci ou non de feuilles et légumes, le coquille entre progressivement dans les habitudes alimentaires du consommateur gabonais. Et d'où jeunes commerçants effrayants de ce gâteau de corneille.
La fabrication est faite à base du haricot, équipé à l'haricot, dit dans des vitamines. Et vous voyez sur la table, vous avez du tubercule. Mais comment ne pas apprécier un plat aussi savoureux?
De la gastronomie en évolution, l'art culinaire africain offre une source d'inspiration illimitée pour ceux qui osent sortir de leur zone de confort, selon les spécialistes. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Des scientifiques testent une nouvelle technique pour dissuader les braconniers qui s'attaquent aux rhinocéros menacés d'extinction pour leurs cornes très prisées. Dans le cadre d'une étude pilote menée en Afrique du Sud, des chercheurs ont injecté de petites pastilles radioactives dans les cornes des rhinocéros vivants. L'objectif est de rendre les cornes radioactives afin de réduire la demande sur le marché noir. Maryse de Clercq nous parle de la réserve de biosphère de Waterberg en Afrique du Sud avec le récit de Thierry Kaori.
Three Corals est l'un des vieux rhinocéros participant à une étude pilote au cours de laquelle des pastilles radioactives ont été injectées dans leurs cornes. Cet animal de 2,5 tonnes a reçu la dose la plus élevée de l'étude menée par l'initiative de recherche sur la conservation de l'Isotope Project. L'objectif est de rendre les cornes de rhinocéros radioactives afin de réduire la demande sur le marché noir et de décourager les braconniers de rhinocéros qui tentent d'en tirer profit. Les chercheurs testent le sang de rhinocéros pour s'assurer que les animaux ne sont pas blessés. Harry Van Deventer est le fondateur et le directeur général de l'orphelinat des rhinocéros et il supervise les animaux de recherche dans la région de Waterberg en Afrique du Sud.
Nous avons tous cherché et essayé de trouver la solution miracle pour mettre fin au braconnage des rhinocéros. Et je pense que cela pourrait être ce dont nous avons besoin pour stopper le braconnage dans son élan. C'est une idée brillante.
It is a brilliant idea.
Il y a 6 mois, le personnel de l'orphelinat a aidé les scientifiques à insérer les pastilles radioactives dans les cornes des rhinocéros sauvages. Récemment, des scientifiques sud-africains et américains sont revenus pour prélever d'autres échantillons de sang sur les animaux de recherche et mesurer les rayons gamma émis par les pastilles. James Larkin, qui dirige le programme financé à l'échelle internationale, a étudié la dose de rayonnement utilisée dans l'étude.
J'ai passé 2 ans et demi à développer des modèles informatiques des animaux, à effectuer ces tests et à les comparer aux résultats de la Commission internationale de protection contre les radiations. Et nos résultats se comparent extraordinairement bien.
Mais Larkins affirme que la dose est encore assez forte pour déclencher les détecteurs de radiation aux frontières internationales, ce qui rend plus difficile la contrebande des cornes. Les scientifiques espèrent que des tests sanguins confirmeront que les animaux sont toujours en bonne santé. Les résultats sont attendus dans environ 2 mois. Si le financement le permet, la technologie pourrait être proposée aux propriétaires de rhinocéros avant la fin de l'année.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Le président Donald Trump affirme vouloir faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies. Il a commencé à mettre son plan en place dès les premières semaines de son second mandat. Michel Quinn s'est penché sur le sujet. Le récit est de Dili Diko.
Dès les premières semaines de son mandat, le président Donald Trump a pris des mesures pour tenir ses promesses de campagne concernant les crypto-monnaies. Il a nommé un responsable des crypto-monnaies et des régulateurs favorables au secteur. Il a également émis sa propre crypto-monnaie et signé un décret sur les crypto-monnaies. David Sachs est en charge de la crypto-monnaie dans l'administration Trump.
Voici le décret sur les crypto-monnaies. Nous allons former un groupe de travail interne pour faire de l'Amérique la capitale mondiale de la crypto-monnaie sous votre direction.
Durant son premier mandat, Donald Trump s'était montré sceptique à l'égard des crypto-monnaies. Mais il semble changer d'avis lors de la campagne présidentielle de 2024. Les entreprises de crypto-monnaies ont largement contribué à ces fonds électoraux. Les partisans des crypto-monnaies ont célébré les premières mesures de Trump comme une rupture avec ce qu'ils considéraient comme une approche hostile de l'administration du président Joe Biden. Ben McMillan est directeur des investissements chez IDX Advisors.
Je pense que l'action de l'exécutif et les commentaires qui l'accompagnent correspondent tout à fait à ce que les partisans de la crypto-monnaie recherchaient, à ce qu'ils voulaient. Je pense qu'il s'agit d'un bon virage.
Le décret de Donald Trump charge un groupe de travail d'envisager la création d'un stock national d'actifs numériques à partir des crypto-monnaies saisies par le gouvernement fédéral dans le cadre d'actions visant l'application de la loi. Le décret garantit également l'accès des entreprises de crypto-monnaies aux services bancaires. Les sociétés de crypto-monnaies se sont plaintes que les banques leur refusaient des comptes. Mais certains critiques s'inquiètent du risque découlant de la suppression des barrières entre le secteur bancaire et le monde des crypto-monnaies. Molly White est une critique des crypto-monnaies.
Il s'agit d'un aspect que nous devrions surveiller de près en raison du risque de contagion des marchés des crypto-monnaies qui sont très volatiles et sujets à des crashs.
Le groupe de travail de la Maison-Blanche devrait recommander des réglementations. Dans les mois à venir, Donald Trump devrait mettre en place d'autres éléments de son plan en matière de crypto-monnaies.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yakuba Ouedraogo, Firmin Max Koyaweda à la réalisation. Ainsi va le monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.